Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour pour cette nouvelle émission à voix haute. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'écrivaine Agota Christophe. Agota Christophe, née en 1935 et décédée en 2011, écrivaine suissesse mais d'origine hongroise, qui avait dû fuir son pays en 1956 alors que la révolution était écrasée par l'armée soviétique. Ce sont les premières pages d'un magnifique roman que je vais vous proposer d'entendre. Il s'agit du Grand Cahier. Et dans ce Grand Cahier, dans un pays ravagé par la guerre, deux enfants, Klaus et Lucas, font l'apprentissage de la vie chez une grand-mère absolument épouvantable. Voici donc le Grand Cahier. L'arrivée chez grand-mère. Nous arrivons de la grande ville. Nous avons voyagé toute la nuit. Notre mère a les yeux rouges. Elle porte un grand carton et nous deux chacun une petite valise avec ses vêtements, plus le grand dictionnaire de notre père que nous nous passons quand nous avons les bras fatigués. Nous marchons longtemps. La maison de grand-mère est loin de la gare, à l'autre bout de la petite ville. Ici, il n'y a pas de tramway, ni d'autobus, ni de voiture. Seuls circulent quelques camions militaires. Les passants sont peu nombreux. La ville est silencieuse. On peut entendre le bruit de nos pas. Nous marchons sans parler, notre mère au milieu, entre nous deux. Devant la porte du jardin de grand-mère, notre mère dit « Attendez-moi ici ». Nous attendons un peu, puis nous entrons dans le jardin. Nous contournons la maison, nous nous accroupissons sous une fenêtre d'où viennent des voix. La voix de notre mère. Il n'y a plus rien à manger chez nous, ni pain, ni viande, ni légumes, ni lait, rien. Je ne peux plus les nourrir. Une autre voix dit « Alors, tu t'es souvenu de moi. Pendant 10 ans, tu ne t'étais pas souvenu. Tu n'es pas venu. Tu n'as pas écrit. » Notre mère dit « Vous savez bien pourquoi, mon père, je l'aimais, moi. » L'autre voix dit « Oui, et maintenant tu te rappelles que tu as aussi une mère. Tu arrives et tu me demandes de t'aider. » Notre mère dit « Je ne demande rien pour moi. J'aimerais seulement que mes enfants survivent à cette guerre. » La grande ville est bombardée jour et nuit et il n'y a plus de nourriture. On évacue les enfants à la campagne, chez des parents ou chez des étrangers, n'importe où. L'autre voix dit « Tu n'avais qu'à les envoyer chez des étrangers, n'importe où. » Notre mère dit « Ce sont vos petits-fils. » « Mes petits-fils ? Je ne les connais même pas. Ils sont combien ? 2. » « 2 garçons. Des jumeaux. » L'autre voix demande « Qu'est-ce que tu as fait des autres ?» Notre mère demande « Quels autres ?» « Les chiennes mettent bas 4 ou 5 petits à la fois. On en garde 1 ou 2. Les autres, on les noie. » L'autre voix rit très fort. Notre mère ne dit rien et l'autre voix demande « Ils ont un père au moins ? Tu n'es pas mariée que je sache ?» Je n'ai pas été invitée à ton mariage. Je suis mariée. Leur père est au front. Je n'ai pas de nouvelles depuis 6 mois. Alors tu peux déjà faire une croix dessus. L'autre voix rit de nouveau. Notre mère pleure. Nous retournons devant la porte du jardin. Notre mère sort de la maison avec une vieille femme. Notre mère nous dit « Voici votre grand-mère. » Vous resterez chez elle pendant un certain temps, jusqu'à la fin de la guerre. Notre grand-mère dit « Ça peut durer longtemps, mais je les ferai travailler, ne t'en fais pas. » La nourriture n'est pas gratuite ici non plus. » Notre mère dit, « Je vous enverrai de l'argent. Dans les valises, il y a leurs vêtements, et dans le carton, des draps et des couvertures. Soyez sages, mes petits. Je vous écrirai. » Elle nous embrasse et elle s'en va en pleurant. Grand-mère rit très fort et nous dit, « Des draps, des couvertures, chemises blanches et souliers laqués. Je vous apprendrai à vivre, moi. » Nous tirons la langue à notre grand-mère. Elle rit encore plus fort en se tapant sur les cuisses. La maison de grand-mère. La maison de grand-mère est à 5 minutes de marche des dernières maisons de la petite ville. Après, il n'y a plus que la route poussiéreuse, bientôt coupée par une barrière. Il est interdit d'aller plus loin, un soldat y monte la garde. Il a une mitraillette, des jumelles, et quand il pleut, il s'abrite dans une guérite. Nous savons qu'au-delà de la barrière, cachée par les arbres, il y a une base militaire secrète, et derrière la base, la frontière et un autre pays. La maison de grand-mère est entourée d'un jardin au fond duquel coule une rivière, puis c'est la forêt. Le jardin est planté de toutes sortes de légumes et d'arbres fruitiers. Dans un coin, il y a un clapier, un poulailler, une porcherie et une cabane pour les chèvres. Nous avons essayé de monter sur le dos du plus gros des cochons, mais il est impossible de rester dessus. Les légumes, les fruits, les lapins, les canards, les poulets sont vendus au marché par grand-mère, ainsi que les œufs des poules et des cannes et les fromages de chèvre. Les cochons sont vendus au boucher qui les paie avec de l'argent, mais aussi avec des jambons et des saucissons fumés. Il y a encore un chien pour chasser les voleurs et un chat pour chasser les souris et les rats. Il ne faut pas lui donner à manger, de sorte qu'il est toujours faim. Grand-mère possède encore une vigne de l'autre côté de la route. On entre dans la maison par la cuisine qui est grande et chaude. Le feu brûle toute la journée dans le fourneau à bois. Près de la fenêtre, il y a une immense table et un banc d'angle. C'est sur ce banc que nous dormons. De la cuisine, une porte mène à la chambre de grand-mère, mais elle est toujours fermée à clé. Seule grand-mère y va le soir pour dormir. Il existe une autre chambre où l'on peut entrer sans passer par la cuisine, directement du jardin. Cette chambre est occupée par un officier étranger. La porte en est également fermée à clé. Sous la maison, il y a une cave pleine de choses à manger. Et sous le toit, un galetas où grand-mère ne monte plus depuis que nous avons scié l'échelle et qu'elle s'est fait mal en tombant. L'entrée du galetas est juste au-dessus de la porte de l'officier et nous y montons à l'aide d'une corde. C'est là-haut que nous dissimulons le cahier de composition, le dictionnaire de notre père et les autres objets que nous sommes obligés de cacher. Bientôt, nous fabriquons une clé qui ouvre toutes les portes et nous perçons des trous dans le plancher du galetas. Grâce à la clé, nous pouvons circuler librement dans la maison quand personne ne s'y trouve, et grâce aux trous, nous pouvons observer grand-mère et l'officier dans leur chambre sans qu'ils s'en doutent. Grand-mère. Notre grand-mère est la mère de notre mère. Avant de venir habiter chez elle, nous ne savions pas que notre mère avait encore une mère. Nous l'appelons grand-mère. Les gens l'appellent la sorcière. Elle nous appelle fils de chienne. Grand-mère est petite et maigre. Elle a un fichu noir sur la tête. Ses habits sont gris foncé, elle porte de vieux souliers militaires. Quand il fait beau, elle marche nu-pied. Son visage est couvert de rides, de taches brunes et de verrues où poussent des poils. Elle n'a plus de dents, du moins plus de dents visibles. Grand-mère ne se lave jamais. Elle s'essuie la bouche avec le coin de son fichu quand elle a mangé ou quand elle a bu. Elle ne porte pas de culotte. Quand elle a besoin d'uriner, elle s'arrête où elle se trouve, écarte les jambes et pisse par terre sous ses jupes. Naturellement, elle ne le fait pas dans la maison. Grand-mère ne se déshabille jamais. Nous avons regardé dans sa chambre le soir. Elle enlève une jupe, il y a une autre jupe dessous. Elle enlève son corsage, il y a un autre corsage dessous. Elle se couche comme ça, elle n'enlève pas son fichu. Grand-mère parle peu, sauf le soir. Le soir, elle prend une bouteille sur une étagère, elle boit directement au goulot. Bientôt, elle se met à parler une langue que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas la langue que parlent les militaires étrangers, c'est une langue tout à fait différente. Dans cette langue inconnue, grand-mère se pose des questions et elle y répond. Elle rit parfois, ou bien elle se fâche et elle crie. À la fin, presque toujours, elle se met à pleurer, elle va dans sa chambre en titubant, elle tombe sur son lit et nous l'entendons sangloter longuement dans la nuit.
À voix haute, Meredith Ledez.
Les travaux. Nous sommes obligés de faire certains travaux pour grand-mère, sans quoi elle ne nous donne rien à manger et nous laisse passer la nuit dehors. Au début, nous refusons de lui obéir. Nous dormons dans le jardin, nous mangeons des fruits et des légumes crus. Le matin, avant le lever du soleil, nous voyons grand-mère sortir de la maison. Elle ne nous parle pas. Elle va nourrir les animaux, elle traie les chèvres, puis elle les conduit au bord de la rivière où elle les attache à un arbre. Ensuite, elle arrose le jardin et cueille des légumes et des fruits qu'elle charge sur sa brouette. Elle y met aussi un panier plein d'œufs, une petite cage avec un lapin et un poulet ou un canard aux pattes attachées. Elle s'en va au marché, poussant sa brouette dont la sangle, passée sur son cou maigre, lui fait baisser la tête. Elle titube sous le poids. Les bosses du chemin et les pierres la déséquilibrent, mais elle marche, les pieds en dedans comme les canards. Elle marche vers la ville, jusqu'au marché, sans s'arrêter, sans avoir posé sa brouette une seule fois. En rentrant du marché, elle fait une soupe avec les légumes qu'elle n'a pas vendus et des confitures avec les fruits. Elle mange, elle va faire la sieste dans sa vigne, elle dort une heure, puis elle s'occupe de la vigne où, s'il n'y a rien à y faire, elle revient à la maison. Elle coupe du bois, elle nourrit de nouveau les animaux, elle ramène les chèvres, elle les trait. Elle va dans la forêt, en rapporte des champignons et du bois sec. Elle fait des fromages, elle sèche des champignons et des haricots, elle fait des bocaux d'autres légumes, arrose de nouveau le jardin, range des choses à la cave, et ainsi de suite jusqu'à la nuit tombée. Le sixième matin, quand elle sort de la maison, nous avons déjà arrosé le jardin. Nous lui prenons des mains les seaux lourds de la nourriture des cochons, nous conduisons les chèvres au bord de la rivière, nous l'aidons à charger la brouette. Quand elle rentre du marché, nous sommes en train de scier du bois. Au repas, grand-mère dit « Vous avez compris, le toit et la nourriture, il faut les mériter. » Nous disons « Ce n'est pas cela. Le travail est pénible, mais regardez sans rien faire quelqu'un qui travaille, c'est encore plus pénible. » Surtout si c'est quelqu'un de vieux. Grand-mère ricane, fils de chienne, vous voulez dire que vous avez eu pitié de moi ? Non, grand-mère, nous avons seulement eu honte de nous-mêmes. L'après-midi, nous allons chercher du bois dans la forêt. Désormais, nous faisons tous les travaux que nous sommes capables de faire. La forêt et la rivière. La forêt est très grande, la rivière est toute petite. Pour aller dans la forêt, il faut traverser la rivière. Quand il y a peu d'eau, nous pouvons la traverser en sautant d'une pierre à l'autre. Mais parfois, quand il a beaucoup plu, l'eau nous arrive à la taille et cette eau est froide et boueuse. Nous décidons de construire un pont avec les briques et les planches que nous trouvons autour des maisons détruites par les bombardements. Notre pont est solide. Nous le montrons à grand-mère. Elle l'essaie, elle dit « Très bien, mais n'allez pas trop loin dans la forêt, la frontière est proche, les militaires vont vous tirer dessus. Et surtout, ne vous perdez pas, je ne viendrai pas vous chercher. » En construisant le pont, nous avons vu des poissons. Ils se cachent sous les grosses pierres ou dans l'ombre des buissons et des arbres dont les branches se rejoignent par endroits au-dessus de la rivière. Nous choisissons les poissons les plus grands, nous les attrapons et nous les mettons dans l'arrosoir rempli d'eau. Le soir, quand nous les rapportons à la maison, grand-mère dit « Fils de chienne, comment les avez-vous attrapés ?»« Avec les mains, c'est facile. Il faut simplement rester immobile et attendre. » »« Alors, attrapez-en beaucoup, le plus que vous pourrez. » Le lendemain, grand-mère charge l'arrosoir sur sa brouette et elle vend nos poissons au marché. Nous allons souvent dans la forêt. Nous ne nous perdons jamais. Nous savons de quel côté se trouve la frontière. Bientôt, les sentinelles nous connaissent. Elles ne nous tirent jamais dessus. Grand-mère nous apprend à distinguer les champignons comestibles de ceux qui sont vénéneux. De la forêt, nous rapportons des fagots de bois sur le dos, des champignons et des marrons dans des paniers. Nous entassons le bois bien en ordre contre les murs de la maison sous l'auvent et nous grillons des marrons sur le fourneau si grand-mère n'est pas là. Une fois, loin dans la forêt, au bord d'un grand trou fait par une bombe, nous trouvons un soldat mort. Il est encore entier. Seuls les yeux lui manquent à cause des corbeaux. Nous prenons son fusil, ses cartouches, ses grenades, le fusil caché dans un fagot, les cartouches et les grenades dans nos paniers sous les champignons. Arrivés chez grand-mère, nous emballons soigneusement ces objets dans de la paille et dans des sacs à pommes de terre et nous les enterrons sous le banc devant la fenêtre de l'officier. La saleté. Chez nous, à la grande ville, notre mère nous lavait souvent, sous la douche ou dans la baignoire. Elle nous mettait des habits propres, elle nous coupait les ongles. Pour couper nos cheveux, elle nous accompagnait chez le coiffeur, nous nous brossions les dents après chaque repas. Chez grand-mère, il est impossible de se laver. Il n'y a pas de salle de bain, il n'y a même pas l'eau courante. Il faut aller pomper l'eau du puits dans la cour et la porter dans un seau. Il n'y a pas de savon dans la maison, ni de dentifrice, ni de produits pour la lessive. Tout est sale dans la cuisine. Le carrelage rouge, irrégulier, colle sous les pieds. La grande table colle sous les mains et sous les coudes. Le fourneau est complètement noir de graisse. Les murs aussi tout autour à cause de la suie. Bien que grand-mère fasse la vaisselle, les assiettes, les cuillères, les couteaux ne sont jamais tout à fait propres et les casseroles sont couvertes d'une épaisse couche de crasse. Les torchons sont grisâtres et sentent mauvais. Au début, nous n'avons même pas envie de manger. Surtout quand nous voyons comment grand-mère prépare les repas sans se laver les mains et en se mouchant dans sa manche. Plus tard, nous n'y faisons plus attention. Quand il fait chaud, nous allons nous baigner dans la rivière. Nous nous lavons le visage et les dents au puits. Quand il fait froid, il est impossible de se laver complètement. Il n'existe aucun récipient assez grand dans la maison. Nos draps, nos couvertures, nos linges de bain ont disparu. Nous n'avons plus jamais revu le grand carton dans lequel notre mère les a apportés. Grand-mère a tout vendu. Nous devenons de plus en plus sales, nos habits aussi. Nous prenons des habits propres dans nos valises sous le banc, mais bientôt, il n'y a plus d'habits propres. Ce que nous portons se déchire, nos chaussures s'usent, se trouent. Quand c'est possible, nous marchons nu-pieds et ne portons qu'un caleçon ou un pantalon. La plante de nos pieds durcit. Nous ne sentons plus les épines ni les pierres. Notre peau brunit, nos jambes et nos bras sont couverts d'écorchures, de coupures, de croûtes, de piqûres d'insectes. Nos ongles, jamais coupés, se cassent. Nos cheveux, presque blancs à cause du soleil, nous arrivent aux épaules. Les toilettes sont au fond du jardin. Il n'y a jamais de papier. Nous nous torchons avec les feuilles les plus grandes de certaines plantes. Nous avons une odeur mêlée de fumier, de poisson, d'herbe, de champignons, de fumée, de lait, de fromage, de boue, de vase, de terre, de transpiration, d'urine, de moisissure. Nous sentons mauvais, comme grand-mère. Exercice d'endurcissement du corps. Grand-mère nous frappe souvent, avec ses mains osseuses, avec un balai ou un torchon mouillé. Elle nous tire par les oreilles, elle nous empoigne par les cheveux. D'autres gens nous donnent aussi des gifles et des coups de pied, nous ne savons même pas pourquoi. Les coups font mal, ils nous font pleurer. Les chutes, les écorchures, les coupures, le travail, le froid et la chaleur sont également cause de souffrance. Nous décidons d'endurcir notre corps pour pouvoir supporter la douleur sans pleurer. Nous commençons par nous donner l'un à l'autre des gifles, puis des coups de poing. Voyant notre visage tuméfié, grand-mère demande « Qui vous a fait ça ?»« Nous-mêmes, grand-mère. »« Vous êtes battue ? Pourquoi ?» « Pour rien, grand-mère. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un exercice. »« Un exercice ? Vous êtes complètement cinglé ? Enfin, si ça vous amuse. » Nous sommes nus. Nous nous frappons l'un l'autre avec une ceinture. Nous disons à chaque coup « ça ne fait pas mal ». Nous frappons plus fort, de plus en plus fort. Nous passons nos mains au-dessus d'une flamme. Nous entaillons notre cuisse, notre bras, notre poitrine avec un couteau et nous versons de l'alcool sur nos blessures. Nous disons chaque fois « ça ne fait pas mal ». Au bout d'un certain temps, nous ne sentons effectivement plus rien. C'est quelqu'un d'autre qui a mal. C'est quelqu'un d'autre qui se brûle, qui se coupe, qui souffre. Nous ne pleurons plus. Quand grand-mère est fâchée et qu'elle crie, nous lui disons « Cessez de crier, grand-mère, frappez plus tôt. » Quand elle nous frappe, nous lui disons « Encore, grand-mère, regardez, nous tendons l'autre joue comme c'est écrit dans la Bible. Frappez aussi l'autre joue, grand-mère. » Elle répond « Que le diable vous emporte avec votre Bible et avec vos joues. » C'était Le Grand Cahier, un roman d'Agota Christophe, paru en 1986 aux éditions du Seuil et disponible en version poche. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions à voix haute. Bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.